Hé, hey, tonton!
Verveine, verveine.
What's happening? What's happening?
Hey. Underground.
Verveine Underground.
Eric Saint-Élégant pour contrôler la discothèque.
20h, 22h sur Europe 1.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales. Nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre.
Ça, c'est grave!
Je suis de retour avec ma sous-culture. Ouais, sauf que c'est nous le futur, hein.
C'est nous le futur.
Underground.
Bonsoir et bienvenue dans Verveine Underground. On se retrouve chaque soir sur Europe 1 de 20h à 22h avec des invités qui viennent se raconter en musique. Et ce soir, feu d'artifice. Mohamed Bourouissa est avec nous. Et Mohamed Bourouissa n'est pas venu seul. La dernière fois que tu étais venu dans Verveine Underground, tu m'as parlé de deux artistes et ils sont avec toi. Est-ce que tu peux nous les présenter ?
Ah, bonjour. Je vais vous les présenter avec grand, grand plaisir. C'est deux artistes et deux amis aussi. Alors, Mehdi Haned, avec qui j'ai fait un super court-métrage. Donc, je suis très fier et donc, on aura l'occasion d'en parler. Et puis, Tiff, qui est un artiste, rappeur, c'est ça ?
Ouais.
Et qui est un artiste, pour moi, qui est tellement talentueux et qui a une écriture incroyable.
Moi, ce que j'aime dans la musique de Tiff, on a déjà parlé ici, on a déjà joué ta musique ici, c'est qu'on a l'impression d'écouter un film.
À fond. Ouais.
Tu vois, et ça, c'est un talent d'écriture incroyable, Tiff. J'aimerais que tu me racontes, Tiff, à quel moment, toi, la musique est entrée dans ta vie ?
Depuis tout petit, en vrai, comme tout le monde, on écoute. Et je pense, à force d'en écouter, tu finis par en faire. C'est rentré dans ma vie via mon frère, qui jouait à Counter-Strike et qui écoutait beaucoup de rap, du Tupac, du Booba de l'époque. Donc je remercie mon grand frère surtout de m'avoir fait plonger dedans. Et après, à force d'écoute, tu finis par écrire. Après, j'ai eu la chance de commencer très tôt, donc je me suis beaucoup entraîné. Et quand tu commences à 16 ans, quand tu arrives à 24 ans ou à 25 ans, tu n'as plus le même niveau d'écriture. Et je suis un peu exigeant avec moi, il faut que ça soit imagé. On essaye d'imaginer. Parce qu'il y a des choses, des fois, faut les mettre en contexte et je trouve peut-être qu'on a tendance à l'oublier dans le rap.
Tiff, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de l'écriture comme un muscle en fait.
Ouais, un muscle qu'il faut travailler, c'est un entraînement, c'est comme l'impro, parce que je fais de l'impro aussi des fois. En rap, plus t'en fais, plus ça, t'as des schémas de pensée, plus t'as une architecture en fait derrière ce que t'écris. Je pense que c'est la même chose aussi pour écrire des films. Pour écrire des films, réaliser des choses, il y a le premier jet, la pensée qui te vient, et après t'essayes de la façonner, dire voilà, là j'ai allumé une clope, comment dire à cette personne que la clope est allumée sans lui dire que la clope est allumée, qu'il y a, je sais pas, une odeur de tabac froid qui jonche dans l'appart.
Comment est-ce qu'on le cultive, ce muscle ?
La pensée, overthinking. Je fais des mots d'anglais des fois. Je pense des fois ça peut servir d'être plus ou moins torturé et de pas être sûr. Et du coup, tu penses beaucoup, tu développes une discussion avec toi-même. Et c'est cette discussion, des fois, c'est pour ça que quand on a le syndrome de la feuille blanche, peut-être que c'est qu'on ne se parle pas assez. Donc, se parler, écrire beaucoup. Et après, c'est beaucoup avec les feedbacks.
Quand tu dis se parler, c'est se parler à soi-même ou parler aux autres ?
On parle aux autres en se parlant à soi-même.
Ouais.
Les cas pour confirmer, c'est il y a beaucoup. On est humain. On a des fois, sans se rendre compte, on a les mêmes pensées, les mêmes réflexes. Il y a une musique qui passe. 15 secondes plus tard, on va avoir le même air dans la tête. Donc Après, quand je vois ce à quoi les gens sont sensibles, ça me dirige un peu plus vers ce que je veux écrire.
Tiff, à tes côtés, Mehdi Haned. Salut Mehdi.
Salut Achour. Moule d'Achour.
Monsieur Haned, comment allez-vous, Monsieur Haned ?
Ça va très très bien.
Explique-moi, toi, comment est-ce que l'écriture est entrée dans ta vie ? Parce que là, tu viens de réaliser un court-métrage qui s'appelle Antical, produit par Mohamed Bourouissa.
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu peux m'expliquer, toi, comment l'écriture est entrée dans ta vie ? Et à quel moment tu t'es dit, ça va être un moyen pour moi de mettre ce que j'ai dans le cœur, ce que j'ai dans le cerveau, et de le partager aux gens ?
En fait, tout a commencé avec Mohamed à Gennevilliers, au Chimgad. C'est une crêperie. Je l'entendais parler avec mon meilleur ami. Ça parlait de tout. Quand je l'écoutais, il racontait un petit peu sa vie, son monde artistique.
C'est un monde de fou, ce qu'il disait.
Ouais, je me dis, c'est un monde de fou, c'est ça. Et je sais pas, un jour, le soleil il m'a frappé au cerveau. Je lui ai dit, pourquoi pas moi. J'ai dit à Momo... moi aussi, je voudrais faire un film. Je lui dis, ouais, j'ai déjà écrit, entre guillemets, j'ai écrit deux lignes. Je lui ai présenté à Momo.
Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il écrit, il écrit pas mal de petites histoires, il écrivait pas mal de petits récits comme ça, il m'en avait passé pas mal avant de sélectionner une de ses histoires. Et c'est vrai que, voilà, je vous laisse continuer. Mais c'est pour vous dire qu'il en a fait pas mal, en fait, et qu'il écrit pas mal dessus.
Au début, j'étais vraiment, vraiment, vraiment débutant. J'avais la flemme d'écrire, j'avais la flemme de lire. Je voulais pas faire ce projet, en fait, c'était pour rigoler, c'était un délire.
Mais il y a aussi un rapport à la confiance en soi, ce que tu dis.
C'est ça. En fait, j'ai pas du tout confiance en moi. Ça, c'est clair et net. Momo, petit à petit, au fil du projet, au fil du temps, il m'a appris à apprendre à me connaître, parce que je me connaissais pas du tout. En vrai de vrai, je connaissais que mon côté quartier, mais pas mon côté...
artiste.
Ou entre guillemets, c'est ça.
Et mais moi, je pense que tu peux les enlever, les guillemets, frère.
Ah ouais, ouais. Ah, parce que ça fait bizarre. Et de fil en aiguille, voilà, Momo m'a appris qu'est-ce que poser un scénario, qu'est-ce que c'est construire un film. Au début, quand on regarde la télé, on se dit, ouais, c'est tout ça, on sait comment ça va se passer. Mais pas du tout. Et au final, je voulais faire vraiment un projet pour la ville de Gennevilliers, pour les mecs de chez moi, les mecs du quartier. Et surtout pour les jeunes de la cité. C'était super important. Parce que j'ai connu, beaucoup de galères dans ma vie. Et là, je préfère profiter un petit peu de... Je suis passé de la pénombre, entre guillemets, à la lumière, grâce au frère Momo. Et voilà, c'est un kiff. Et c'est un kiff d'être avec toi.
Il y a énormément d'émotions dans ta voix quand tu parles, et beaucoup de sincérité. Et je dis franchement, quand Mohamed Bourguissa m'a parlé de toi et de ton travail, ça lui tenait vraiment, vraiment à cœur. Mohamed, pourquoi est-ce que ce projet, tu le portes tellement, en fait ?
Bah, en fait, c'est aussi... moi, c'est venu petit à petit. Cette rencontre était comme une... pour moi, c'est une super belle rencontre, dans le sens où, quand il est venu me voir en me disant « Tiens, j'ai envie de faire un film », je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment inscrit dans la ville où j'habite, c'est-à-dire à Gennevilliers. Et quand il est venu, et avec cette envie de faire les choses, parce qu'il faut avoir du courage, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais quand on n'est pas de ce milieu-là et qu'on n'appartient pas à un milieu artistique comme ça, et qu'on tout d'un coup on se dit, tiens, j'entends parler ce gars qui fait de l'art, j'ai envie de faire moi aussi, et d'aller passer le pas, et de faire ce geste d'y aller, pour moi, c'est un grand cap et c'est une vraie force, c'est une vraie preuve de courage. Et quand il me dit, tiens, j'ai envie de faire un film, il m'explique qu'effectivement, il ne connaît pas, il écrit. Enfin, Mehdi écrit quand même un petit peu dans son coin, mais il ne sait pas, en fait. C'est quand même, c'est quand même le cinéma, faire des courts-métrages, écrire un scénario, c'est des choses qui sont très codifiées. En fait, c'est un milieu qui est quand même assez codifié.
Et un milieu fermé aussi, en vrai.
Et aussi très fermé, mine de rien. Et donc, il y a ces codes-là qu'il faut apprendre, et donc on ne sait pas par où prendre les bouts. Et donc, je me suis dit, écoute, ce que je vais essayer de faire, Mehdi, quand je lui ai dit, écoute, ce que je vais essayer de faire, c'est t'aider à la fois à réaliser ton premier court-métrage, mais aussi à t'aider à comprendre toutes les chaînes de ce que c'est que réaliser un film. Une des premières chaînes, c'était d'écrire un scénario, et c'est là où, en fait, lui, il se positionnait en premier lieu. Il m'a dit, moi, je veux écrire un scénario. Et donc, j'ai fait en sorte, en tant que producteur, donc en prenant le rôle de producteur, et de l'aider à construire son film de A jusqu'à Z, à la fois dans l'écriture du scénario avec qui il a travaillé, donc David Pickering. David Pickering l'a aidé vraiment à développer son scénario et développer toutes ses idées, donc créer une dramaturgie, apprendre les rapports de dialogue entre les personnages, créer des personnages, créer toute l'histoire, toute la nomenclature du film. Et donc ça a vraiment aussi développé aussi son en tout cas tu me diras, mais pour moi ça a vraiment développé aussi son écriture, de quelle manière il voyait le cinéma. Et ensuite, après, on a travaillé sur la réalisation du film jusqu'à l'étalonnage et jusqu'à la diffusion qui a lieu il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière.
Et ce court-métrage s'appelle Antical, il est réalisé par Mehdi Haned. On est dans les studios avec Mohamed Bourguissa, Tiff et Mehdi Haned, et on écoute un morceau de Tiff, Emoji DZ.
J'aimais bien quand j'étais petit, que je vivais comme un autochtone, je m'en foutais des détecteurs, même sans j'étais stone, je veux être riche entre deux octaves, vu que lui il est pété thune, avec lui elle est plus tactile, et plus atralise, plus hotbeat, je suis toujours parmi ch'tonnable. Le jour où je le serai, t'auras même pas un petit dommage que l'Europe c'est fort en marketing. Pour ça que tous les petits sont là, Paris la télé, c'est pas la même. En vrai, ça pue la pisse, mon marque, ça fume le jour, le pisson lit. Avec les yeux qui plissent, on voit l'esprit éveillé, puissance 10. Fais son bif et puis s'enfuit. Car il a peur des gyrophares. Ça peut passer du rire en larmes, émoji des aides. Templiers entre mes lèvres. Si je les aime, c'est que je me déteste. T'en presse, il faut que je me dépêche. For me.
On vient d'écouter Emoji DZ de Tiff. Dedans, Tiff, tu dis mon cœur c'est pas Nintendo, mon arme c'est pas du paintball. Tu parlais de Counter-Strike. Tu mélanges les références de rue, de quartier, l'Algérie, les jeux vidéo.
Je suis un geek au fond.
T'es un geek, c'est ça, t'es un geek.
Ouais, ouais, c'est une musique, musique que j'aime bien parce qu'il y a de la simplicité dans l'écriture. Il y a de, ce qui est dur des fois, c'est qu'on se prend la tête, mais je prends des idées simples. Je jouais à ça. Après, il faut faire gaffe quand je dis mon arme, c'est pas du paintball. Nous ne sommes pas des grands trafiquants.
Évidemment.
Mais c'est plus. Ouais, c'est vraiment ouais, Counter-Strike. J'ai grandi avec ça. C'est une musique que j'aime bien parce que je pense qu'il y a plein de gens, que ce soit de ma communauté ou pas, qui se reconnaissent dedans. Et voilà.
Moi, ce que j'aime dans ta musique, et c'est pour ça que je te parle du jeu vidéo, c'est que ta musique, je trouve que c'est aussi une musique de réflexe. C'est-à-dire qu'on est toujours surpris par la rime qui vient après. C'est-à-dire que. Il y a des gens qui ont des rimes prévisibles. On sait que quand l'un il va dire cité, après il va dire incité ou excité. Toi,
nous, les laisse jamais savoir quel est ton next move.
Exactement. Toi, on ne sait jamais sur quoi ça va retomber. Et surtout, tu as un rapport avec la gestion des temps. C'est jamais la même chose.
Ouais, j'essaye. En fait, j'ai fait beaucoup de jams. Mm-hmm. J'ai baigné d'abord dans de la musique, ok, avec le rap, mais ouais, beaucoup de jam, de sessions freestyle, donc ça se développe avec ça. Et après, j'écoute beaucoup, donc j'ai un peu de recul par rapport à ce qui se fait à côté. Et donc, je sais que l'auditeur est habitué à une certaine... ce qui marchait à 4 ans et qui faisait rendre les gens un peu fous, ça marche plus maintenant. Donc j'essaye d'être un peu... C'est beaucoup de prise de tête. Hein. C'est des 6 heures d'écriture au studio. C'est une démarche en plus, mais ça porte ses fruits, généralement.
Et puis surtout, c'est à contre-courant de l'époque. C'est qu'aujourd'hui, ils veulent tous être Young Thug. Et penser qu'un morceau, ça arrive 4 heures en studio comme Young Thug et on fait un album. Sauf qu'en fait, Young Thug veut être personne d'autre que lui-même.
C'est ça.
Et toi, t'as ce truc-là, en fait. T'as ce truc-là de dire, bah, je veux être que moi.
Je pense que ça vient, en vrai, de vrai, ça vient en étant entouré, en étant bien entouré. C'est que j'ai de la chance d'avoir des gens qui ne soient pas forcément dans le rap ou dans le rap autour de moi et qui me disent honnêtement ce qu'ils pensent, quoi que j'écrive. Et au début, je ne faisais pas le rap que je fais maintenant, même si je pense que j'ai encore de quoi avancer. C'est que longtemps, on m'a dit non, c'est beauf. Et jusqu'à ce que tu fasses quelque chose qui le soit moins, et après, tu vois que ben, ça a tilté dans la tête de cette personne et tu commences plus ou moins à aller dans ce sens-là. Mais oui, il faut avoir de l'amour autour de soi pour savoir que même les choses banales que nous, on vit et qui ne sont pas forcément mises en valeur par d'autres rappeurs, ben, ça peut plaire. Il suffit juste d'avoir le courage de les dire.
On en revient à la confiance en soi dont on parlait avec Mehdi.
C'est ça.
Et cette confiance, Mohamed Bourouissa, comment est-ce que toi, tu l'as eu, cette confiance en ton art, en ce que tu fais, en disant... Ce que moi je porte, ce que moi j'ai envie de raconter, en fait, ça veut dire quelque chose, ça a sa place dans le monde artistique.
Bah, en fait, moi, c'est quand tu parles de confiance, moi, c'est beaucoup le regard, et comme il te le dit, tu vois, il y a un truc de regard de ceux qui sont autour de toi qui est important. Et ça, je pense que c'est beaucoup ces retours-là qui font que tout d'un coup, tu te sens okay, légitime, tout du moins, à faire ce que tu fais, tu vois. On parlait peut-être Mehdi parlait beaucoup de l'apport que lui que je lui ai porté, mais il se rend pas compte à quel point il a eu un apport sur moi et qu'il a eu une influence aussi sur ce que je suis aujourd'hui. Le fait de faire un projet comme j'ai fait avec Mehdi sur le film le court-métrage Intikal, je pense que ça a été une vraie aventure, moi, qui m'a aussi grandi. C'est-à-dire que les projets pour moi artistiques sont pas juste des, si tu veux, c'est pas juste des représentations, c'est pas juste que des objets. On a l'objet final, c'est-à-dire que ce que les autres peuvent voir de l'extérieur, mais ce qui s'y passe à l'intérieur, pour moi, m'intéresse beaucoup plus. C'est-à-dire toute l'expérience, tout le processus créatif, pour moi, il est essentiel dans la manière de faire de l'art. Et je pense que ça, c'est ça, en fait, qui fait que ça te remplit. Et ça fait aussi que ça te donne une certaine confiance en ce que tu fais. C'est quand tu vois aussi le résultat, mais c'est tout le processus qui est important.
Et ce fameux « entre guillemets » que met Mehdi quand il parle, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on l'enlève? Parce que même moi, je l'ai encore sur entre guillemets, en vrai. Tu vois, moi, quand on me demande ce que je fais, je dis, bah, je suis entre guillemets ça, tu vois.
Ah, parce qu'à la base, moi, je suis assistant de vie scolaire à l'école de Médéric, mais...
Mais en vrai, ce que tu fais, c'est beaucoup plus important que ce que je fais, moi. Hein. Je le dis direct. Vraiment.
Ah, moi, je te suis. Pour moi, t'es un grand artiste.
Non. Pour moi, c'est... Je te jure, moi, je suis derrière un micro et je fais des blagues avec vous. T'es dans la réalité, ça.
C'est difficile aussi. C'est un métier. C'est un métier, ce que tu fais.
Est-ce que dans ton métier d'assistant de vie scolaire, il y a des histoires qu'on te raconte, des choses que tu vis, qui peuvent nourrir toi, ton écriture?
Bien sûr, bah, comme hier. mes deux CPE, mes deux responsables sont lancés des vannes. Et là, j'ai une petite idée, je me dis pourquoi pas mettre une scène pour plus tard, peut-être. Une petite idée.
Entre guillemets production.
Tout ce que je vois dans la vie de tous les jours, je me dis ça me sert. Mmh. Je me dis, ah lui il est marrant, ah lui il est... c'est pas trop cool. Mais...
En fait, quand tu regardes les choses maintenant, il a ce réflexe, cette déformation de regarder les choses d'une manière artistique, tu vois.
De comment je peux le transformer en matière, en fait.
C'est ça. Et c'est grâce à Momo, c'est Momo qui m'a appris à... juste le fait de contempler un petit peu les bâtiments, les cieux, je le faisais pas.
Des fois, quand on a l'habitude d'une chose, on perd un peu ce recul et ça prend un truc monotone et on oublie que c'est quelque chose de spécial quand même. On voit pas tous ces petits détails que peut-être quelqu'un d'autre d'extérieur qui connaît pas la banlieue, il va aller voir de suite alors que nous, c'est juste la vie normale.
Alors Tiff, en préparant cette émission, on allait faire un tour sur YouTube. Et notre brigade d'investigation t'a remonté.
Non.
Et sous un de tes commentaires dans une vidéo de YouTube, il y a ce commentaire. La daronne de ce mec était ma prof au primaire à Alger. Cette femme nous a aimés comme si on était ses propres enfants. Étant gamin, j'avais pas forcément pris conscience, mais après avoir grandi, tu t'en rends compte. Merci des valeurs que vous nous avez inculquées, madame. Tiff, si tu venais à lire ce commentaire, passe le bonjour et remercie ta mère pour moi.
C'est fait. Merci à l'élève qui a mis ce commentaire. C'est, je crois, le meilleur commentaire YouTube parce que du coup, ma mère est prof en Algérie au primaire. J'ai été élève de ma maman. Et même pour elle, c'était une manière, des années après, parce que maintenant, elle a la retraite, de voir que ses élèves ont grandi, qu'ils se rappellent d'elle et qu'elle a inculqué des valeurs, de l'amour.
Et ces valeurs, cet amour que t'as inculqué ta maman, on va écouter un artiste qui ne serait rien sans sa maman et sans ce qu'elle lui a inculqué, c'est Kanye West et le morceau Runaway, choisi par Mohamed Brouissa. Have a toast for the jungles, gotta never take work off. Baby, I got a plan, run away fast as you can. You find pictures in my email, I sent this bitch a picture of my dick. I don't know what it is with females, but I'm not too good at that shit. See, I can have me a good girl and still be addicted to them hood rats. And I just blame everything on you. At least you know that's what I'm good at. And I always find, yeah, I always find, yeah, I always find something wrong. You've been putting up with my shit just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. Vous êtes sur Europe 1, l'émission c'est Verben Underground. Nous sommes avec Mohamed Brouissa, Mehdi Haned et Tiff, un rappeur, un réalisateur, un artiste. Finalement, tous les trois, vous êtes artistes. Ce mot artiste, pourquoi est-ce qu'on l'applique pas quand on parle d'un rappeur, par exemple? On ne dit pas un artiste ou un réalisateur. En fait, il correspond à tout le monde, ce mot.
Bon ouais, moi je pense que c'est une vision assez large, hein. Y a pas de... on ne peut pas le catégoriser, tu vois, un rappeur c'est un artiste, un réalisateur ça l'est aussi. C'est juste qu'en fait on a créé des catégories, mais pour moi ça peut être utilisé pour tout.
Mehdi Haned, c'est quoi pour toi un artiste?
Un artiste?
Ta définition d'un artiste?
Comment te dire ça, c'est...
Sans guillemets.
Sans guillemets, il s'adapte à tout. Pour moi c'est un artiste. C'est comme hier je disais un élève. Un cuisinier est un artiste. Ça veut dire, on lui dit de faire des pâtes à la pizza ou un gloubi, une quiche aux chips, c'est un artiste. Tu vois, pour moi, c'est un artiste.
Tiff, pour toi, c'est quoi un artiste?
En fait, l'art, ça peut être plein de choses. Je pense que c'est défini par celui qui le reçoit et qui le perçoit en tant que l'art. Moi, je peux faire un truc complètement anodin ou un gribouillis demain et un mec... par sa vision des choses, il va se dire « Ouah, il y a quelque chose, c'est contemplatif, il y a un truc derrière. » Donc je pense que c'est vraiment défini par celui qui l'écoute et qui considère que c'est de l'art. Et après, ça peut être plein de choses, l'art. C'est très large. Mais chaque rappeur n'est pas un artiste.
Pourquoi?
Parce que j'écoute la radio des fois. Pas la vôtre, pas la vôtre, mais j'écoute la radio. Tu me permets, Dieu.
Ouais, c'est juste, il y a juste une chose par rapport à cette définition. Je pense qu'en fait, il y a, au contraire, je trouve que le fait de pouvoir en parler, que ça soit, s'articule et que ça soit pas encore définissable, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux encore. Mmh. Tu vois, ça c'est hyper bien que ça soit pas définissable. Mmh. Tu vois.
Alors, voilà. Une question à tous les trois. L'artiste qui vous a le plus ému dans votre vie, ouh, qui vous a le plus touché?
Ah bah vas-y, hein.
Vas-y.
Bah, bah, j'en ai plein, j'en ai plein.
Hors Zidane.
Mahrez.
Hein?
Mahrez.
Riyad Mahrez.
Riyad Mahrez. Okay.
Riyad Mahrez pour Mehdi Aden.
C'est Zidane de la nouvelle génération.
Ouais, le dernier but face au Nigeria en 2019.
Ouais, dernière minute, moi, c'était chaud.
Moi, c'est. Alors voilà, je vais parler de Tiësto Gate. C'est un artiste américain de Chicago, moi, qui me bouleverse. Parce qu'en fait, lui. Enfin, il fait partie de ces artistes un peu qui sont protéiformes et qui vont en fait à la fois faire de la musique. Il chante incroyablement bien. Mmh. Il fait de la peinture. Il a travaillé sur un projet à Chicago, moi, qui me bouleverse, où il a changé son quartier. Mmh. Voilà, Tiësto Gate.
Tiff.
Un artiste qui aurait marqué mon enfance, je vais dire, c'est tout simple en vrai, parce que j'ai écouté beaucoup de rap français en étant petit, c'est Booba. Mmh. Booba qui m'a poussé à l'écriture. Par contre, un autre artiste dont c'est là où on se dit, vas-y, je me repose sur mes acquis, c'est Langa, qui est un chanteur de Chaabi. En fait, c'est quelque chose, c'est une musique, du coup, Chaabi algéroise, qui est de chez moi. Et c'est quelque chose que j'ai dans les oreilles depuis petit, sauf que je ne me suis jamais intéressé de plus à ce qu'il disait, parce que c'est de l'argot algérois de l'époque, donc c'est dur un peu à déchiffrer. Et là, je commence à le faire, et je me dis, vas-y, j'ai dormi... On dort sur un patrimoine
sur
de
un
fou
diamant,
malade. Ouais. C'est des gens qui parlent de ce qu'on vit maintenant, qui ne l'ont pas forcément vécu, qui parlent soit d'exil, soit de choses dans leur propre pays. Et du coup, j'ai des artistes qui, je pense, si je comprenais avant dans la voiture avec mes parents, m'auraient touché, mais je les découvre que maintenant.
Et Booba fait partie de ta playlist, Tiff. On écoute le morceau Pitbull.
Bras levés, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Bras levés, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Mon premier spliff, ma première bouteille. La richesse est dans nos cœurs, mon cul, moi je veux de l'oseille. Pour en obtenir, des fois c'est les cartons. Peu importe si la daronne veut faire le tour du monde. Petit la race humaine est méchante. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ces chiens là. Que entre les jambes et j'ai toujours la larme à l'œil. Le cœur engourdi, dealer. Tu noir et blanc, 100% bone, dit killer. Talentueux mais tu seras jamais dans ma poule. Sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son boule. Des fois je me dope comme un coureur cycliste. Quand tu réveilles mes cicatrices, je me sens si seul et si triste. Lyriciste agréé, pour ça que Dieu m'a créé. Si, si, ambiance pendue, ambiance Mississippi. Je me déchaîne au microphone, c'est l'Amazonie. Des indigènes dans les chromosomes, les cités d'or, ma terre promise. À lever tête haute.
On vient d'écouter Pitbull de Booba et on est avec Mohamed Bourouissa, Mehdi Aned, Tiff. Le court-métrage s'appelle Intikal. Alors racontez-moi l'histoire de ce court-métrage. C'est quoi le pitch, comme on dit?
En fait, c'est une histoire entre un grand-père qui raconte une histoire d'amour à son petit-fils en 2005. Son histoire d'amour dans les années 60 à son petit-fils en 2005. Donc ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est surtout de parler à la fois d'un grand-père et d'une histoire qui est très peu racontée, de génération et de la question de la transmission, en fait. Parce que vraiment, il y a ce truc aujourd'hui où on a besoin de transmettre et nos parents souvent ne nous ont pas transmis. Ces histoires qui souvent datent de l'époque de la colonisation ou pendant la guerre, on n'a pas eu cette possibilité de communiquer. Nos parents ne nous parlaient pas souvent de leur propre histoire personnelle. Mmh. C'est quelque chose d'un peu tabou.
Bien sûr.
Et donc, c'est vraiment cette histoire entre un grand-père qui raconte son histoire personnelle à son petit-fils.
Qui se voyait aussi.
Qui se voit au travers de son petit-fils.
C'est ça.
Et voilà, donc on vous en dira pas plus parce qu'il faut aller le voir, mais, mais en tout cas voilà, il y a toute cette histoire et puis ce fond d'émeute de 2005 et puis en même temps ce rapport entre 2005 et les années 60, voilà, c'est aussi de mettre en parallèle ces deux époques. Effectivement, 2005 ça a été une époque où il s'est passé beaucoup de choses, on a souvent traité ça comme d'émeute sans vraiment qu'il y ait une vraie raison. Moi je pense qu'au contraire ça s'enracine depuis très longtemps en fait, ces problématiques, et que elles viennent pas de nulle part en fait, voilà.
Ces émeutes de 2005, elles ont donné lieu à beaucoup de matières artistiques.
Ouais.
Il y a ton travail, Mohamed Bourouissa, il y a Ladjli qui était présent pendant les émeutes, parce que c'était dans son quartier, qui a fait Les Misérables. On a l'impression que finalement, il y a eu une prise de conscience et que ceux qu'on appelait les casseurs, en fait, ont reconstruit. Ce qu'on appelait les destructeurs, on reconstruit l'image, on reconstruit des vocations, on reconstruit la, justement la transmission.
Ouais, je pense que ça, c'est je vais laisser un peu Mehdi si tu veux en parler. Mais oui, je crois qu'il y a eu vraiment une vraie prise de conscience et qu'en fait, tout d'un coup, on s'est dit, bah, ouais, on peut pas juste. Ça a été vraiment un choc aussi pour tout le monde. Et je pense que ça nourrit aussi. On a essayé de comprendre à partir de là ce qui s'était passé. Moi, je l'ai fait au travers de mon travail artistique. Je pense que quand j'ai fait Périphérique, ça partait des émeutes de 2005. Ensuite, après, j'ai fait Temps mort. Et je pense que c'était aussi, par exemple, Temps mort, c'était un travail autour de la prison. Et c'était lié aussi au moment où Sarkozy passe la loi zéro tolérance. Donc, il y a eu un moment où il y a beaucoup de gens qui sont partis en prison à cette époque-là.
À peine plancher.
Ouais. Il y avait vraiment beaucoup de gens. Donc, je pense que si ça retrace une histoire, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bah voilà, il va falloir qu'on articule nos discours, qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on utilise, le langage, l'art, voilà, qu'on puisse au moins s'exprimer et surtout articuler tout ça, quoi. Mais dis, si tu veux dire.
Ouais, c'est vrai, on a pris. Moi, personnellement, j'avais pris une prise de conscience juste après, en 2018-2019, pendant les émeutes, on était là, on a participé parce que voilà, c'était fallait que notre parole, fallait qu'on fasse passer un message. Mais après, c'est vrai qu'à l'époque, les grandes chaînes ne nous ont pas donné ce message de dire c'est pas la meilleure des façons de tout casser, de tout brûler, mais il y a une autre façon de s'exprimer, il y a une autre façon de faire passer un autre message. Et au fil du temps, comme je te disais avec Momo, au fil du temps, grâce à ce projet-là, on a voulu casser cette barrière-là, parce que le monde artistique dans les cités, il n'y a pas. Tu lui dis, ouais, va faire du théâtre, il va te regarder chelou. Lui, il va penser quoi? Qu'au foot, on ne va pas se mentir, la violence un petit peu, parce qu'on a avec ça.
Mais même le rap, en fait, je trouve qu'on a, on a désartistifié le rap. Parce que souvent, les gens dans les quartiers parlent du rap et on a parlé du rap comme une industrie, comme un moyen de gagner de l'argent. Et on n'a pas beaucoup parlé du rap comme un art, en fait. Même les gens du rap, en fait, n'en parlent que de disques d'or, de streaming, de chiffres, de trucs comme ça.
Ouais, c'est... À part Jul et Booba, il n'y a pas d'autres rappeurs qui...
Par exemple, si on parle pour le coup d'art, vraiment d'art, moi, ce que je disais tout à l'heure, on était à l'extérieur avec Tiff, et ce qui, moi, me touche énormément il a une phrase dans un des morceaux qui s'appelle Vent du Nord, et que je dise pas de bêtises, il a dit bien, tu me dis, Tiff, c'est...
Et même quand une âme nous quitte, on s'adapte. Ouais.
Et tu vois, pour moi, cette phrase, alors, elle parle de quelque chose, quand on perd une personne, comment on fait? Et à la fois, il parle de quelque chose, dans ce morceau, de quelque chose de très personnel et en même temps de très universel. Et c'est pour ça qu'en fait, Tiff, tu vois, et effectivement, je lui souhaite tout le bonheur de pouvoir que ça marche et qu'il réussisse de vivre de son art. Mais il y a quelque chose de puissant et d'universel dans son travail, même si c'est une approche très personnelle. Évidemment, aujourd'hui, on parle beaucoup du rapport du stream et tout, mais quand tu as des paroles comme ça qui te touchent en plein cœur, tu dis qu'effectivement, là, on parle d'art, on parle de musique, de musicalité, et que j'ai l'impression, moi, depuis 2005, il y a énormément de gens qui commencent à essayer d'apporter des choses différentes, qui a une vraie prise de conscience, qui a une vraie autocritique. Parce que c'est ça, en fait, je pense que Mehdi, ce que tu disais, c'est que je pense qu'il y a aussi une prise de conscience et une autocritique qui commence à se faire, que ça soit dans la musique, que ça soit politiquement, mais en même temps aussi artistiquement. C'est-à-dire que quand par exemple Tiff décide de faire des projets de la musique, il a toute cette dimension critique par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mehdi, quand il fait une ticale et qu'il décide d'écrire une ticale, c'est aussi un film qui parle de quartier, mais qui essaye d'aller peut-être aller chercher d'autres choses et d'essayer de comprendre quels sont les enjeux dans ces problématiques qu'on ressasse constamment, tu vois.
Mais finalement, c'est d'humaniser en réalité tout simplement cette autocritique.
Bien sûr.
C'est de pas être dans l'angélisme ou dans la diabolisation. C'est juste de dire, il y a un juste milieu et nous aussi, on a le droit à se remettre en question.
Bien sûr. Comme des deux côtés, l'équité. Comme je dis, c'est que ça soit les gens du quartier comme les gens de l'extérieur. C'est-à-dire... on est toujours bloqué au quartier. On se dit, ouais, voilà, les gens de dehors sont racistes, les gens de dehors, eux aussi, ils nous aiment pas parce qu'il y a trop de violence. Non, moi, je voulais casser cette barrière, de se dire, aux petits jeunes, ouvrez-vous, vous allez voir que artistiquement, vous allez kiffer. Et quand je vois Serena, Luz, ou on me dit, ouais, les jeunes, les petits de ton quartier, c'est des bombes atomiques, c'est des amours, moi, ça me touche. Parce que pour moi, c'est mes petits frères. Et je me dis, voilà, dans le quartier, il n'y a pas que de la violence, il y a aussi des bonnes personnes, il y a encore des...
Mais il y a avant tout, je trouve, aussi.
Bien sûr.
qui sont confrontés à d'autres choses plus dures, mais à la base, personne ne naît mauvais.
Ouais, c'est ça, personne n'est mauvais, mais c'est comment on dit, en fait, on nous a mis dans une case, c'est-à-dire la violence, la drogue, le foot. C'était ça, on est tellement dans un cliché que j'en avais marre. Moi, le premier, hein, quand je disais à Momo, je sers à quoi dans cette société? À rien. Je préfère être en bois du quartier, à rigoler avec mes potes. Mais en vrai, j'ai perdu énormément de temps. Et c'est pour ça que grâce à ce projet-là, j'ai envie de faire mon trop petit, que rien n'est perdu et rien n'est impossible dans la vie.
Vous avez 3 minutes pour réfléchir. La misère est si belle. Qu'est-ce que ça vous évoque? On écoute tout de suite PNL sur Europe 1.
Un jour viendra nos paniques. Ma foi, les larmes sont brûlantes. Oh mon Dieu, j'attends les dés et vite. La roue a tourné ou peut-être pas. Au fond, tout ça, c'est toi qui décides. Y'a pas d'amour qui tienne. Je laisse croire qu'ils connaissent tout ça. S'ils savaient ce que ça veut dire, ce que ça comporte. Mais bon, comme on dit, qui vivra verra. Hey, c'est la vie, ma belle. Wow. Ce pauvre et si moche, je le trouve beau. De toute façon, la misère est si belle. Hey, hey. Toute l'année, je les aime. Je rêve d'un avenir heureux pour eux. Car au fond, sourire nous voit amer. Hey, la misère est si belle. Zou. La misère est si belle. Car la misère est si belle.
On vient d'écouter PNL, La misère est si belle, sur la playlist de Mohamed Brouissa. On est en studio avec Mohamed Brouissa, Medianed et Tiff. La misère est si belle. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette phrase, en fait? Qu'est-ce qui vous évoque cette façon de penser? Et pourquoi est-ce que la misère serait si belle?
Alors, moi, je vais répondre en premier parce que c'était, je pense, mon choix. Hein, je crois que c'est ça.
Ouais.
Donc, je vais vous laisser réfléchir tranquillement avec ce que je vais vous dire avant.
Allez, aujourd'hui, épreuve du bac, on étudie NOS et ADEMO.
Mais je pense qu'en fait, cette phrase, elle est à double tranchant, tu vois. C'est ça qui est assez beau dans cette phrase, tu vois. Pardon. Et donc, en fait, ce que je trouve, en fait, intéressant, c'est que en disant la misère est si belle, c'est à la fois une glorification de ça qui peut être aussi très tendancieux, mais en même temps, c'est aussi se dire qu'est-ce qui va nous nourrir et comment on va réfléchir à ce qui nous a construit aussi, tu vois. Parce que c'est aussi des éléments de construction et qui vont nous permettre aussi de peut-être dire comment on fait pour les utiliser et pour faire en sorte qu'on dépasse ces problématiques qu'on vit tous les jours, tu vois. Et pouvoir analyser aussi notre environnement et pouvoir aussi dire ouais, peut-être t'as vécu des choses, mais ce que t'as vécu aussi te renforce et fait que tu peux être, tu vois, tu peux être aussi bien avec ce que t'as vécu. Parce que parfois, quand Mehdi, là, il vient de dire un truc assez fort, il se dit, j'avais pas confiance en moi et tout ça. Mais je pense qu'en fait, ton vécu, c'est ce qui t'enrichit et c'est ce qui te permet en fait de te développer. Si évidemment tu dénigres cette histoire personnelle et que parce qu'en fait on te dénigre toi, en fait, tu finis par pas pouvoir évoluer. Et au contraire, je pense qu'il fait « Ok, ça, c'est mon vécu, ça, c'est mon histoire, mais ça m'enrichit et ça fait de moi quelque chose, quelqu'un avec son identité, sa propre histoire, et ça te permet d'évoluer. » Tu vois, c'est par rapport à la question du dénigrement aussi, je trouve. Tu vois, il ne faut pas dénigrer son histoire et de là où on vient. En fait, c'est notre bagage et il nous sert à nous construire, en fait. Tu vois,
il vient d'où, ce dénigrement?
Je pense qu'il... Je voulais répondre, les gars, ou moi, je continue? Parce que si je suis parti, j'y vais. Hein.
On a tout le temps ensemble, on est dans un grand débat.
Non, mais je pense qu'il vient à la fois de la société, tu vois, tu le perçois en fait dans la manière. Par exemple, c'est tout con, tu vois, tu peux voir, moi, ma mère est musulmane, elle prie 5 fois par jour, et c'est vrai que quand tu vois comment la manière dont les musulmans sont traités au travers des médias, c'est vrai que ça peut aussi te... Tu vois, tu reçois les choses inconsciemment et tu peux aussi te dénigrer toi-même, tu vois, par rapport à la manière dont on te renvoie ce miroir, tu vois. Je pense qu'il y a ce truc-là qui se fait aussi beaucoup. Et il y a d'autres choses constamment, tu vois, quand tu peux pas trouver de job, je pense que tu vis dans un certain quartier ou quoi, la manière dont les gens vont te percevoir. Donc au final, tu vois, ça s'insinue discrètement dans l'inconscient, en fait. Tu vois, et c'est vrai que d'essayer de se dire, ok, basta, je vais essayer de me repositionner, de me retrouver ma place où moi-même je pense où je suis. Et ça se fait aussi par rapport aux gens que tu vas rencontrer. Parce que, tu vois, autant Mehdi te dit ça, lui a servi ce projet, autant Mehdi aussi m'a permis aussi moi de me construire au travers de ce projet. Donc en fait, c'est aussi des relations que tu crées, que tu noues avec les gens, qui vont faire qu'en fait ce bagage, ou peut-être c'est un certain point commun que tu vas avoir avec la personne, où tu vas te retrouver en l'autre, tu dis en fait ça fait partie de notre bagage, ça peut nous permettre de voir les choses autrement et aussi d'apporter une plus-value. Plutôt que d'essayer d'être obligatoirement dans la confrontation, tu vois. Je pense que c'est ça pour moi, c'est là où est l'enjeu, quoi.
Mehdi, la misère est si belle, qu'est-ce que ça t'évoque?
Je suis pas d'accord avec PNL. Je suis désolé. En
fait, c'est pour ça qu'on débat.
La misère, c'est quand tu galères, c'est vraiment tu galères. Tu vois, après, quand t'en sors, tu dis, comme on dit chez nous, alhamdoulilah. mais t'as pas envie de retomber, t'as pas envie de retomber dedans, tu vois. C'est, pour moi, c'est la misère est derrière moi, bah, je la laisse derrière moi. C'est, elle est tellement ancrée dans ma tête que j'ai eu du mal à m'en sortir de ça et je préfère l'oublier. Et comme il disait Momo, même on refuse du job, des travails, à chaque fois j'ai des refus sans motif. Je dis, ah ouais,
ouais, ça peut être dur, quoi.
Ouais, j'ai franchement ce passé là j'ai envie de l'oublier.
Mais tu crois pas que c'est aussi parce qu'à un moment donné aussi en fait ça te renvoie à ta propre image de ce que t'es, à ta propre identité, à ta propre histoire, et en fait ça aussi ça te dénigre de tuer, tu vois.
Bien
donc
sûr.
Si autant s'assumer qui on est et de pas dire que ce qui arrive comme étant un refus touche ma personne, tu vois. Je sais pas comment expliquer, tu vois. C'est que,
mais moi,
en fait,
la façon dont je le prends, la misère est si belle de PNL, c'est de dire ça fait partie de nous et, et je m'aime avec toutes les galères, des cafards à la réussite, quoi. C'est comme ça que je l'entends, moi. C'est une déclaration d'amour à tout ce qui a, fait qu'ils sont devenus PNL.
Mais moi, je me pose la question, qu'est-ce que c'est la misère?
Ah, c'est un grand, laisse tomber, c'est un grand débat. Ça peut être une misère affective, ça peut être la misère. C'est pas que matériel, en fait, la misère, tu vois.
Ah non, mais il y a des gens bien nés qui peuvent être dans la misère parce que leurs parents ne leur donnent pas assez d'attention. La misère arrive de partout. Tu as aussi la misère matérielle, c'est le premier truc auquel on pense. Mais comme l'a dit Mohamed, la misère affective, des fois, peut être beaucoup plus grave et plus triste. Il y a aussi la misère intellectuelle dans laquelle on est à notre époque.
Grave.
On est dans une époque de misère intellectuelle à cause des réseaux sociaux,
TikTok,
où chaque information est déformée et où il n'y a plus de réflexion et où c'est l'émotion qui dicte tout, en fait. Tout doit nous stimuler. Donc, quand une information n'est pas censée nous stimuler, la vérité n'est pas censée nous stimuler. Et là, on fonctionne à l'émotion.
Grave, à fond.
Tiff, tu n'as pas répondu à...
En fait, j'avais déjà répondu dans une musique à ta phrase qui n'est pas encore sortie. J'avais dit, je trouve que la misère est belle qu'une fois que tu la quittes. Et quand tu es dedans, tu ne te rends pas forcément compte parce que c'est ton quotidien, tu es encore en train de galérer, que ce soit physiquement, émotionnellement. Mais tu te rends compte que tu étais dans une mauvaise phase dès que ça va un peu mieux. Et par rapport à ce qu'on disait de prendre du recul sur soi, moi, quand je suis arrivé en France à 18 ans, j'ai découvert une certaine misère. C'est que quand je suis arrivé, déjà, j'étais un peu en surpoids. Je faisais 40 kilos de plus que maintenant. Il y avait plein de choses et je suis arrivé seul.
Tu faisais mon poids, quoi.
J'ai vu dans ton regard.
Tu vas me coacher. Parce que tu sais que si je perds du poids, je suis vraiment le sosie de Mohamed Brousse. Mais c'est un autre débat.
Je vois un air de ressemblance. Non, du coup, faut, en fait, c'est là où je remercie mes parents pour l'amour qu'ils m'ont donné ou mon entourage en général. Et je pense qu'il faut. C'est là où on voit la force de l'amour. C'est que.
Moi, je remercie mes parents pour l'huile qu'ils m'ont donnée.
L'huile,
on écoute.
Dit-on. Non, en vrai, que ce soit les parents, en tout cas, quand on reçoit de l'amour, c'est que même si à un moment donné, bah, jusqu'à mes 18 ans, j'étais traité d'une certaine manière, ensuite j'arrive en France, dans un territoire neutre, que ce soit en France ou ailleurs, tu arrives dans un territoire neutre, les gens ne vont pas te donner forcément le même statut que tu avais avant, ne vont pas te traiter de la même manière. Tu arrives, tu es juste quelqu'un, on ne le connaît pas d'une certaine manière. Et c'est-à-dire que tu dois réussir à t'imposer. Et je crois, moi, c'est quelque chose qui me forge. Je sais que plus je suis. Ça doit marcher pareil pour plein de gens. Plus tu es dans une misère, plus tu sais que tu peux en sortir et que le jour où tu en sortiras, ça sera formateur. Et moi, j'ai de la chance, je considère, d'avoir grandi dans des situations où c'était pas forcément facile, où tu es obligé de faire de la recherche. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'avenir en Afrique. C'est que, il y a les réseaux sociaux, mais il y a une grosse partie de la jeunesse qui est livrée à elle-même en termes de réflexion. C'est-à-dire que t'es pas dicté par comment ton prochain te voit, par quelle case tu veux être mis, par est-ce que tu es un rebeu, est-ce que tu es un truc de cité, un mec de cité, est-ce que tu es un français. C'est vraiment, tu as le temps de développer ça avec toi-même et tu trouves que la misère est belle quand tu la quittes, parce que quand tu es dedans, c'est pas drôle. Voilà, aussi simple que ça. C'est dur d'aimer
la misère.
On est aujourd'hui avec un réalisateur qui s'appelle Mehdi Haned. Mehdi, j'ai beaucoup écouté ce que tu as dit pendant toute cette émission et le mot que Mehdi a le plus répété, c'est le mot violence. Et j'aimerais qu'on écoute Édouard Louis, écrivain, qui donne sa définition de la violence.
La violence, c'est ce qui nous constitue, c'est la vérité de notre être. Et on est nombreux et nombreux sur Terre à être constitués par la violence. Si on prend les personnes LGBT, les Noirs, les Arabes, les femmes, les Juifs, les pauvres, il ne reste plus beaucoup de monde à la fin. Et j'ai toujours eu cette impression, en tout cas ce sentiment, que la violence était l'espèce de socle fondateur de ce qu'on était, et qu'à partir de ce moment-là, la meilleure manière de défaire la violence, c'était d'en parler. Et qu'au fond, il n'y a rien de plus opposé à la violence qu'une parole sur la violence. Et plus on parle de la violence, et plus on a des chances de la voir, de l'interroger, et donc de trouver des manières de réussir à l'affronter, à la combattre.
Medianed, tu viens de réaliser un court-métrage qui s'appelle Entical, où c'est un grand-père qui parle avec son petit-fils. Est-ce que ça résonne ce que vient de dire Édouard Louis, c'est que la meilleure façon de défaire la violence, c'est d'en parler?
Bien sûr. La violence ne résout pas par la violence. Mmh. Les coups, quand on te met un coup, on ne te rend pas par un coup. Tu vois, c'est vaut mieux des fois se poser, respirer, en parler, trouver une solution, parce qu'on m'a toujours dit dans un premier, il y a toujours une réponse, il y a toujours une solution. Et c'est pour ça que les petits, quand j'essaie de faire un peu des entre guillemets éducateurs, quand je vois ils se prennent la tête ou venez les gars, on se pose, ça sert à rien, la violence ne résout à rien du tout, au contraire, elle amplifie. Et elle envie plus les choses qu'autre chose. Et au final, c'est quand je repense, quand on prend du recul, c'est les parents qui subissent les conséquences. Mmh. Parce que nous, en tant qu'hommes, et entre guillemets, dans les quartiers...
Vas-y, je vais titiller là. Là, je peux pas te laisser. Là, tu fais le bon parleur. Là, non, on n'a pas moyen. Mmh. Non, tu me carottes pas. Là, il veut te carotte. Là, il veut faire le discours politique, politiquement correct. Non, la vérité, c'est que c'est très bien qu'il y a eu des embrouilles et que des fois, c'était la violence qui a réglé le truc. Mais après ouais, je dis pas que la violence, on a raison. Après, il y a du regret. Mais la violence, elle est toujours présente.
On a tous fait de la violence.
Bah ouais.
Tu vois, moi le premier. Mais au final, quand tu prends du recul, tu dis quoi? Merde, pourquoi j'ai fait ça? C'est pas moi. Mes parents m'ont pas éduqué comme ça. On n'est pas des animaux. Ouais. Tu vois, et c'est vrai, à force, moi je suis une personne têtue. Ça veut dire, j'ai goûté à ça au coup, on m'a mis des coups, j'ai repris des coups, mais au final, après, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Comme on parlait tout à l'heure de la misère ou de la. Par rapport à cette violence, je me suis dit, avec cette violence-là, j'ai essayé d'en faire du bien. Je me suis dit, quoi, bon, les gars, c'est.
Ouais, en fait, c'est transformer le truc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc qui est présent, mais c'était de se transformer, quoi.
Voilà, c'est ça.
Je pense qu'il faut être en paix avec la violence des fois.
Il faut se faire violence à soi-même.
Ouais, surtout. C'est dur.
C'est difficile, mais
merci
voilà.
Merci le ramadan de m'avoir empêché de faire plein de choses cet été.
Tif, t'es un artiste aujourd'hui qui porte haut et fort la voix du rap algérien qui va exploser. En plus, avec l'avènement des plateformes de streaming dans le monde. Je pense que c'est
plus besoin de signer quelque part.
Exactement, ça va être la prochaine explosion dans le rap. Il va venir de là. Et j'aimerais qu'on écoute une artiste qui a grandi en Algérie, c'est Zao.
J'ai vécu aussi les meilleures années de ma vie en Algérie parce que chaque jour, on le vivait comme si c'était le dernier. On s'amusait, il n'y avait pas de limite. On vivait vraiment, on était dans les vraies choses. Tu vois la vie différemment, on rigolait, on s'éclatait, on vivait le moment présent, vraiment croquer la vie à plein dedans, comme on dit. Donc, je pense que j'aurais pas pu éviter ça, mais ça m'a donné aussi une réalité aujourd'hui, en tant qu'adulte. C'est que je sais ce que c'est et je ferai tout pour profiter et être reconnaissante dès que j'ai entre les mains quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui me rend heureuse.
C'était Zao qui parlait de la décennie noire qu'elle a connue. Toi, tu es né pendant cette période, Tif. Aujourd'hui, on parle du rap algérien comme de la prochaine explosion. Dans quel état d'esprit sont les artistes de ta génération, en fait?
En fait, je pense que déjà, quand on vit sur le sol algérien, on n'est pas dans le même état d'esprit que quand on est ailleurs. Je pense que tu as plus de recul et de perspective. C'est comme avec La misère est si belle, mais qu'une fois que tu la quittes, pendant que tu es dans le truc, c'est dur d'exprimer, même de savoir comment les gens te perçoivent de l'extérieur. Mais je pense qu'il y aura peut-être une avance des gens qui sont partis, parce qu'il y a plein de choses qui nous semblent anodines au pays. Et une fois qu'on vient ici, on se rend compte que non, soit c'est un trésor, soit c'est un défaut. Mais il faut qu'on en parle. Je sais qu'il y a plein de choses qui arrivent, plein de choses de bien qui se font au pays, parce que justement, il y a beaucoup de réflexions. Il y a la pauvreté, ça pousse à la réflexion, ça pousse à sortir de la pauvreté, peut-être. Donc, il y a peut-être une lueur d'espoir de ce côté-là. Mais ouais, années 90, plutôt dur. Après, moi, je suis né en plein dedans, donc j'ai moins subi les couvre-feux, etc. Mais ce que je peux dire déjà, c'est qu'on sent une différence entre ma jeunesse qui est née pendant cette période-là et ceux qui étaient là avant. C'est que ceux qui sont là avant, ils sont un peu plus pieds à terre, voire il y a une certaine peur Et nous, nouvelle génération, qui avons connu une autre sorte de violence, on peut en parler. Il y a plein d'autres soucis qu'un Algérien va rencontrer dans la vie au quotidien. Dont, c'est pas le colonisateur le problème actuellement, même si il s'est passé des choses avant. C'est pas le colon le problème et c'est pas la décennie noire. Enfin, je pense que c'est dans la continuité. Mmh. Mais maintenant, notre génération, il y a un certain cri qui veut se faire entendre. On veut changer plein de choses. Moi, je sais qu'il va y avoir une vague d'artistes. Moi, maintenant, les gens commencent à me connaître, mais j'ai hâte de savoir aussi ce que pensent les jeunes qui sont à ma place. Quand j'avais 15, 16, 17 ans en Algérie, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont dire de différent, ce qu'ils vont apporter. Et voilà, je ne sais pas s'il y avait une question plus précise.
Mais non, mais c'était le mot de la fin par Tiff. Tiff, immense artiste, merci d'être venu dans les studios d'Europe 1.
Merci à toi de nous recevoir. Merci à Mohamed d'avoir...
Merci Mohamed Bourouissa. Merci de nous avoir emmené pour la première fois à la radio Mehdi Ahmed.
Merci mille fois.
Le court-métrage Entical, où est-ce qu'on peut le voir?
Ça, il faut voir ça avec mon groupe.
On est en train de finaliser le cours, là. On est vraiment en dernière étape. L'idée, c'est qu'on puisse l'envoyer à des festivals et tout prochainement, et puis faire une diffusion peut-être dans différentes salles, des diffusions privées, dont on vous tiendra au courant.
On vous mettra tout ça sur les réseaux sociaux de Verven Underground.
Et puis, je veux dire encore, juste très fier de ces deux artistes. Merci d'être venu, parce que c'est un immense travail qu'il a fait, Benny, en réalisant son premier court-métrage.
Merci à toi.
Et puis, super. Allez voir.
Et ben voilà, merci les amis. Je suis très fier d'avoir fait cette émission avec Mohamed Bourouissa, Mehdi Ahmed et Tiff. Merci d'être venus ce soir sur Europe 1. Verven Underground revient dans un instant avec Run DMC. Et Donna Summer. À tout de suite sur Europe 1.
Verven Underground.